C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes vendredi 28 octobre. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Avec un ciel qui est encore un petit peu nuageux, pas chaud ce matin. Ça tourne autour de 1 ou 2 degrés. Et d'ailleurs, même si le soleil va dominer, le maximum pour la journée devrait tourner autour de 10 degrés. Ce soir et cette nuit, quelques nuages, un petit peu de brouillard durant la nuit. Température autour de 3 degrés. Demain, samedi, ensoleillé. Le brouillard se dissipe. On aura des vents légers, maximum prévu 14 degrés, et dimanche ensoleillé, 14 degrés, donc un très très beau week-end, de saison, avec des températures tout près des normales. Et pour la journée de l'Halloween, lundi, on prévoit du temps nuageux, 13 degrés, et de la pluie, faible quantité, et probablement en fin de soirée, donc ça devrait pas trop, pour l'instant, affecter la grande tournée des bonbons, qui aura lieu lundi soir un peu partout au Québec. Avant de regarder les enjeux du tunnel et de ce qui attend les automobilistes et camionneurs à partir de lundi, un mot sur le discours hier de Vladimir Poutine qui a fait cette allocution devant un club de discussion à Moscou. Et il a dit, je cite, « Le monde entre dans une décennie la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale. » Et tout le discours de Poutine, c'est de dire que cette agression contre l'Ukraine est en fait une attaque préventive parce que l'Occident veut dominer. Et c'est comme un changement tectonique de l'ordre mondial et que l'Occident n'est plus en mesure de diriger le monde, mais qu'il tente désespérément de se battre par pays interposés parce qu'ils ne peuvent pas accepter cette prestance qu'ils ont perdue. Alors, en d'autres termes, c'est un conflit contre l'Occident et l'Ukraine n'est qu'un pion dans ça. Et quand on lui pose des questions sur l'utilisation d'armes sales, d'armes nucléaires, Poutine demeure évasif et dit essentiellement que il a répondu aux questions et surtout qu'il a répondu aux menaces de ses adversaires. Alors, c'est important peut-être d'amorcer notre revue de presse ce matin par les propos de Poutine. Maintenant, on sait tous qu'il y aura évidemment beaucoup, beaucoup de travaux en fin de semaine, des entraves, pont Mercier, des entraves au tunnel. Il y aura donc le tunnel qui est fermé en direction de la rive sud. Pont Mercier, je le disais, pont Victoria. Quand même, on a pris une décision, on va faciliter la sortie de Montréal vers la rive sud. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est pas d'être chialu, là, c'est de dresser un constat de l'absence de planification véritable. Ça fait un bout qu'on sait qu'il y a un chantier majeur. C'est pas banal, ça, quand on décide de fermer partiellement un tunnel. On le sait, puis on le sait depuis le mois d'août que le chantier va être plus complexe. Et actuellement, c'est l'espèce de panique, de course à la dernière minute. Quand la ministre nouvelle des Transports, Mme Guilbeault, sort, puis elle dit « Hey, ayez un plan B, les amis, là. » Parce que le gouvernement n'a pas été capable de planifier un plan A, un plan B, puis un plan C. À part des petits dépliants qu'on envoie aux gens de la Rive-Sud, là, puis d'essayer de s'organiser, c'est pathétique. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est de voir le nombre de structures qui existent, dont le mandat est spécifiquement de coordonner les actions pour limiter, pas pour effacer tout problème, mais pour limiter les problèmes puis trouver des solutions. Je vous donne des exemples. C'est assez concret, là. À partir de lundi, je rappelle, deux voies vers Montréal, une voie vers la rive sud. Les horaires de train, les horaires d'autobus, les horaires de métro, on ajoute des wagons, bien sûr. Mais est-ce qu'on tient compte des travailleurs atypiques? D'après ce que je vois, pas tellement. Puis peut-être au besoin, si jamais ça se fait sentir, ben on pourrait ajouter du service. C'est pas l'approche. Dès le départ, je donne le service maximal, quitte à l'ajuster après. On n'est pas dans ça. Et la Ville de Montréal est plus ou moins au courant, et Mme Plante envoie ça dans la cour du MTQ. Mais est-ce que c'est pas la responsabilité de la Ville de pas attendre à 3-4 jours avant de brasser le pommier? C'est facile pour la Ville de Montréal de dire ben, on n'est pas maître d'œuvre du chantier, puis nous autres, on subit les conséquences, puis on veut pas que ça déborde dans nos quartiers, puis OK, mais toutes nos structures là, de Mobilité Montréal, nos structures de l'agence qu'on a créées pour coordonner le transport en commun, je lisais ce texte de la presse canadienne concernant, puis il faut le faire, là, la RTM qui annonçait la prolongation d'un service gratuit de navette entre Boucherville et la promenade Bellerive. Ça, c'est à l'est du tunnel. Le problème, c'est que ça intéresse personne parce qu'il n'y a pas de connexion avec le transport en commun. Donc, si tu traverses là parce que tu as déjà, je sais pas moi, un travail, tu veux t'en aller vers le centre-ville, ben va falloir que tu te débrouilles. Et pour ce qui est des navettes qui sont efficaces et appréciées, qui mènent vers le Vieux-Port, ben on se retrouve, semble-t-il, avec des services. Puis là, les gestionnaires disent, peut-être que ça va revenir au printemps, pas sûr de pouvoir le maintenir, il y a des questions de contrat. Si je vous le dis, c'est hallucinant. C'est un autre exemple. Et quand vous regardez les effets, parce que les effets sont nombreux, puis là, je vois des gens, par exemple, dans le secteur de la santé à Montréal, qui ont peur de perdre du personnel. Puis, si on résume ça à deux catégories, puis c'est beaucoup plus large, mais vous avez le choix, pour 3 ans, à vous taper le bordel, ou de dire, ben, je vais aller travailler dans un hôpital sur la Rive-Sud plutôt que Maisonneuve-Rosemont, puis ça commence à se voir, puis je vais aller travailler dans une école sur la Rive-Sud plutôt qu'au centre-ville ou dans l'est de Montréal. Il y a peut-être des gens qui vont faire ce choix-là. Et puis le volet aussi du télétravail qui est important. Mais on verra bien lundi matin, puis on sera là pour vous accompagner, puis regarder un peu comment ça se passe. Faut pas se fier toujours au premier matin. C'est souvent le deuxième, le troisième. Et voir aussi, et Luc Ferrandez avait raison, quel est le pourcentage d'automobilistes qui va s'évaporer, c'est-à-dire des gens qui vont disparaître des voies rapides, qui vont faire du télétravail, qui vont décider de changer leurs heures, de rentrer plus tôt ou plus tard. Est-ce que cette grosse tempête de neige au quotidien va amener des changements assez profonds pour atténuer les impacts? Ça risque quand même d'être à analyser dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vous donne un exemple là, d'impact. Et vous allez peut-être m'aider aussi à mieux documenter ça. Et, c'est un auditeur qui m'a écrit concernant le traversier Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola. Et lui, il a une entreprise. Un de ses employés habite Lanoraie, puis l'usine est à Contrecoeur. Et il prend le traversier, jusque-là, pas de problème. Sauf que depuis quelques semaines, la file d'attente est interminable. Ce qui fait que cet employé doit arriver au traversier à 4h30 le matin pour être sûr d'être à 7h à contre-cœur et il quitte au plus tard à 4h pour être chez lui avant 20h. Fait que tu commences à 4h30 à te déplacer puis tu reviens chez vous le soir à 20h. J'aimerais ça entendre des commentaires d'auditeurs qui utilisent ce traversier. Et à un point tel que l'employeur pense à y louer un appartement dans le coin pour pas qu'il y ait à faire la navette comme ça tous les jours. Ça va aussi loin que ça. Puis des gens qui sont dans l'est éloigné de Montréal, la banlieue par exemple, puis qui font affaire sur la rive sud, puis jusqu'à maintenant ça allait pas si mal avec le traversier, mais là c'est différent. Dossier des urgences. On sait qu'il y a une cellule de crise qui a été créée. Le ministre Christian Dubé s'est rendu hier à l'hôpital Sainte-Justine pour promettre des solutions concrètes terrain pour aider à décongestionner les salles d'urgence. Je vais en reparler tantôt un petit peu avec Jonathan. On entend toutes sortes de bruits, mais je peux vous dire que la question numéro un du personnel, puis là, j'inclus des médecins, j'inclus des infirmières. Est-ce qu'on a vraiment demandé à des gens de terrain, des gens qui ne sont pas des bureaucrates, des gens qui sont pas assis à la journée longue derrière un écran d'ordinateur, des gens là qui ont les deux pieds sur le plancher de l'urgence, qui, dont le travail, c'est d'intervenir puis de coordonner. Bref, est-ce que ces gens-là ont leur mot à dire ou c'est un brainstorm de fonctionnaires puis de gestionnaires? Et c'est un peu ça le scepticisme qui entoure. Puis là, je parle pas des réactions des partis d'opposition, là. C'est un mélange d'espoir qu'enfin on a peut-être trouvé un début de solution, mais aussi de se faire dire que oui, les PDG vont être là, puis pff, c'est bon, mais disons qu'il y a comme certaines retenues, puis on espère aussi que on va pouvoir trouver des solutions rapides. Puis j'ajoute ce matin, parce que tu sais, les médecins à qui on parle nous disent tous, il faut améliorer l'accès de première ligne, donc vers un médecin de famille. Puis là, vous lisez ce matin qu'à Québec, le guichet d'accès est pas encore à point. Il y a encore des ratés. Il y a trop d'appels. C'est un reportage de Radio-Canada qui illustre la situation. On se rend compte que les lignes téléphoniques, il y a eu des bugs, puis que ça se règle supposément. Mais les gens sont pas capables d'avoir accès aux services. Alors voilà pour les deux blocs d'infos importants, les urgences et la situation au tunnel. Maintenant, Elon Musk est devenu officiellement propriétaire de Twitter, 44 milliards. Il est arrivé là qu'un évier, quand même assez original comme approche. Et il se définit d'ailleurs comme le... Puis là, c'est le logo de Twitter, comme le espèce de nouvel oiseau qui va refaire l'environnement de Twitter. Et ce qu'il dit... c'est qu'il veut plus de liberté. Mais là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. D'un côté, il dit, oui, je n'aurais pas tassé Donald Trump malgré tous les faux messages qu'il a envoyés. Mais il dit, on ne peut pas permettre aux gens de faire n'importe quoi non plus sur les plateformes. Bref, on ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Et il prétend que le coup de barre sera retentissant. D'abord, premier geste qu'il a posé, c'est de se débarrasser d'à peu près tous les cadres supérieurs de l'entreprise. Puis ça va du chef des opérations, le CEO, là, au gars des finances, puis bye, tout le monde dehors, je veux donner un ton différent, et surtout, il les accuse d'avoir menti sur les faux comptes, que Twitter aurait caché l'existence importante de comptes qui, dans le fond, sont faux et ne servent qu'à gonfler les chiffres. Et il veut que Twitter devienne une plateforme où on va pouvoir faire du magasinage, on va pouvoir commander de la bouffe, on va pouvoir... faire des réservations de transport. Il veut tout faire ça, là. Et c'est, dit-il, la seule façon de rendre ça rentable. Pour ce qui est des congédiements massifs d'employés, on disait que le tiers de la main-d'œuvre pourrait être viré. Là, il était un peu plus prudent. Mais on verra. On verra. Mais disons, quand t'arrives avec un évier, là, c'est un symbole aussi que tu t'en viens comme nettoyer la place. Alors... tout un personnage. Elon Musk qui est non seulement, vous le savez, le créateur de Tesla, mais aussi il se prononce à peu près sur tout. Guerre en Ukraine, la révolution en Iran. Un personnage. La presse nous dit ce matin qu'on se dirige vers un record de 50 000 demandeurs d'asile, des gens qui entrent de façon, disons, pas illégale, ou en tout cas, ça respecte pas vraiment les règles, mais ce fameux chemin Roxham, on n'est pas capable de trouver une solution. Puis on est obligé de les accueillir, puis là, on est obligé de leur accorder de l'hébergement, puis des services, puis ça entre sans que on ait une volonté claire du gouvernement fédéral de mieux contrôler, puis le record a été dépassé. Puis depuis la fin relative de la pandémie, ben le transfert a repris pas mal. Vous dire également, je vois beaucoup de reportages sur les évaluations municipales. Les gens ont commencé à recevoir les montants. Puis là, je le sais, vous vous mettez à capoter parce que vous regardez ça, vous dites c'est 35, 37, 40 d'augmentation. Le compte de taxe sera pas aussi élevé, mais on sait qu'il va être quand même juteux. Et est-ce que ça vaut la peine de contester? Parce que là, je sais que les montants, ça varie d'une place à l'autre, là, mais c'est nettement plus cher. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Je le sais pas. Il y en a qui prétendent que oui, d'autres qui prétendent que non. faut regarder peut-être autour de chez vous de quoi ça a l'air, mais c'est sûr que le compte de taxes va faire mal cette année pour beaucoup de propriétaires. Aussi, dans la presse ce matin, on apprend que l'entreprise de la famille d'un mafieux demande 1,6 million à un projet du genre de Tony Accurso. On revient au geste de vandalisme, maison qui flambe, témoignage également de la fille de Tony Accurso, Lisa Ray, qui a changé de nom, qui était à Tout le monde en parle, puis dont on n'a rien compris du message. Et là, ce matin, la presse nous dit, voici un peu le topo. C'est un projet de condo à Beaconsfield qui lève pas. Et l'entreprise West Hill est détenue à 50% par le gendre de Tony Accurso, Carole Fortin. Et il est allé chercher du financement auprès de partenaires, disons, connus dans les milieux mafieux. Des gens qui ont été ciblés dans l'opération Colisée, entre autres. Et c'est Antonio Pietrantonio, alias Tony Suzuki. Il y a un fils, puis le fils a fait du financement. Puis d'après moi, il trouve que ne paye pas assez vite. Puis là, le projet est arrêté. Si on résume, là, peut-être que le promoteur est allé faire des affaires avec des gens un peu, disons, nerveux et qui, quand vient le temps de se faire payer, ne lésinent pas sur les moyens. Puis c'est un message ou des messages qu'on essaie de passer. Fait que là, peut-être qu'on comprend un peu plus la confusion des propos de Mme Ray lors d'une émission Tout le monde en parle. Fait que ça serait autour d'un enjeu de 1,6 million en disant « paye ». Puis si tu payes pas, ben on va te faire passer un message pour que tu comprennes puis qu'on puisse retrouver l'argent plus les intérêts.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On va regarder d'un peu plus près ce chantier qui va vraiment prendre forme officiellement lundi. Remarquez que déjà, on a commencé à apprivoiser des contraintes. Mais c'est un chantier de 3 ans au tunnel La Fontaine. On le sait tous qu'il y aura 2 voies en direction de Montréal, 1 voie en direction de la Rive-Sud. Et déjà, on appréhende des bouchons de circulation quand même majeurs, des gens qui sont en train de revoir leurs approches. Est-ce que je vais pouvoir travailler à distance? Est-ce que je peux modifier mon cadre de travail? Je fais le point ce matin avec M. Jean Séguin, qui est sous-ministre adjoint à la Sécurité civile. M. Séguin, bonjour.
Bonjour.
D'abord, c'est quoi votre mandat précisément?
En fait, le mandat que j'ai présentement au niveau du tunnel Louis H. Lafontaine, c'est un peu la coordination des mesures d'atténuation, autant côté mobilité, là, ce qu'on peut faire sur les infrastructures et les routes, que celle en transport collectif, là, pour encourager le transfert modal.
Et vous l'avez depuis combien de temps, ce mandat-là?
En fait, depuis le fin juillet, début août, là, donc à partir du moment où la décision a été prise pour... là, ça a été une décision qu'on ne souhaitait pas être obligé de prendre, mais on a dû la prendre, de fermer un des 2 tubes. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvé avec 3 voies. Donc, depuis fin juillet, début août, j'ai le mandat d'essayer de coordonner un peu tout ça puis d'assurer les communications avec les différents partenaires.
OK. On est vendredi. Ça commence officiellement lundi.
Oui.
Êtes-vous prêt?
Assurément. Parce que, dans le fond, tout le chantier a été monté et pensé justement en fonction d'entraves majeures. Du côté de la Rive-Sud, on le vit depuis lundi. On parle du 31, mais depuis le 24, depuis lundi dernier, la Rive-Sud, la configuration qui est en place présentement, c'est la configuration qui va être en place pour les 3 prochaines années. Évidemment, on va changer de tube à un moment donné, mais le 2 voies direction nord est en place et jusqu'à date, ça va bien. Ça va même, je dirais, mieux que ce qui était anticipé là, selon les prévisions. Du côté de Montréal, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entraves, il y a non seulement les travaux du tube, mais les dalles en amont du tube. Donc, avant d'arriver au tunnel lui-même, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours. Il y a des choses sur des structures, notamment. Alors, les entraves étaient très imposantes. La circulation, et les gens le vivent, là, et les réalisent bien. Là. La circulation est très au ralenti. Ce qui fait en sorte que, quand ils vont arriver à partir de lundi, à ramener ça de 2 voies à 1 voie, à la vitesse où la circulation roule présentement, l'impact ne sera pas majeur.
Et là, attendez. Oui. Vous allez me dire que si on a une voie vers la rive sud, oui, au lieu de deux, l'impact ne sera pas majeur?
On veut pas. Il est clair qu'il va y avoir une augmentation de la congestion. Là. Ça, on ne veut pas le nier, là, puis on le dit.
Le responsable est venu ici en studio.
Oui.
Il nous a dit, faites fois quatre. Si ça vous prend 20 minutes, multipliez par quatre. On parle là d'un impact majeur. Là. Dites-moi pas que c'est mineur.
Tout à fait. Non, mais je cherche pas à minimiser. Là. Tout ce que je dis, c'est que le x4, c'est par rapport au temps avant les travaux. Alors déjà, là, présentement, on est en entrave majeure. On est déjà dans le x2, x2,5. Alors ce qu'il nous reste à faire pour le x4, c'est justement cette fusion-là des deux dernières voies. Mais présentement, là, c'est ça, peut-être que c'était pas clair, là, mais le x3 Rive-Sud, x4 Montréal, par rapport à avant travaux, trois voies ouvertes avec le tunnel. Donc là...
OK, mais ça va être plus bouchonné lundi que je l'ai actuellement.
Assurément.
On peut être clair là-dessus.
On ne le nie pas, on l'a toujours avoué. Là, effectivement, il va y avoir plus de congestion. Puis c'est la raison pour laquelle là, la ministre encourage, même demande aux employeurs de faire preuve de flexibilité. On voit clairement une différence entre les vendredis et les lundis et le reste de la semaine.
OK. Vous, la clé numéro un, c'est le télétravail, dans la mesure où c'est possible, là.
Ben, tout à fait. Il est clair que le télétravail, pour les employés qui n'ont autre choix là, que d'emprunter le tunnel Louis H. Lafontaine pour aller travailler, là, faut protéger ces gens-là qui doivent prendre la voiture, comme les camionneurs. Mais tous ceux qui sont en mesure de faire du télétravail, on encourage fortement.
Je suis d'accord avec vous. Le premier ministre du Québec était ici lundi, a dit « le gouvernement va donner l'exemple ». Tous les jours, là, je peux vous sortir ma liste, là, ce matin, la CNESST, il n'y a rien de ce qui se fait. Les gens ont pas d'entente, on se fait répondre, on va regarder en novembre un peu plus tard, voir si c'est vraiment nécessaire. C'est pas vrai que le gouvernement du Québec donne l'exemple.
Mais en fait, les consignes vont nous être transmises. Là. On parle là, au Conseil du Trésor, justement, là, puis ça va être diffusé. Il y a pas de souci. Les sous-ministres et les gestionnaires auront la flexibilité nécessaire pour accorder...
Mais pourquoi ça, c'est pas déjà fait?
Ben, en fait, c'est parce que il y a un autre objectif aussi. Là. Il faut considérer... En global, au niveau global, l'économie notamment, il y a la relance du centre-ville fait partie de l'équation où on a besoin quand même de donner un coup de pouce au centre-ville. Du côté du tunnel Louis H, c'est pas une clientèle qui se dirige au centre-ville. Alors, c'est là qu'il faut trouver, parce que c'est quand la consigne est diffusée, elle est diffusée pour beaucoup de ministères, beaucoup d'employés. C'est pour ça qu'il faut quand même être capable de rationaliser puis se dire, bon, c'est la clientèle du tunnel qu'on vise, là, c'est pas l'ensemble des employés de la fonction publique qui se destinent au centre-ville, par exemple.
Monsieur Séguin, depuis le début de la semaine, j'entends le président de la Chambre de commerce dire qu'il faut interdire l'auto solo. J'entends le chef du Parti québécois dire qu'il faut mettre le transport collectif gratuit dans l'Est de Montréal. J'entends la mairesse de Montréal qui me dit qu'il y a un manque de communication, d'information entre le MTQ et la ville de Montréal. Là, les gens qui arrivent avec les solutions là, comme ça dans 3-4 jours avant, là, comment vous prenez ça? Êtes-vous prêt à installer des voies pour voitures avec plus que deux personnes? Vous voyez ce que je veux dire? Interdire le solo.
Oui, tout à fait. Mais déjà, on encourage le covoiturage. Là. Il y a la voie réservée là, qui va passer. Qui va
OK, permettre... mais le président de la Chambre de commerce, oui, il dit l'auto-solo, là, je sais que la réponse de Québec, ça a été non. Là.
Oui.
Il n'y aura pas d'interdiction, mais est-ce que ça pourrait venir?
Ben, en fait, le premier ministre, la ministre, les deux ont indiqué là, que c'est pas complètement exclu. Là. Au moment où on se parle, c'est pas ce qui est privilégié. Là. Ce n'est pas exclu. Mais juste la mise en œuvre de ça, faut que ça soit respecté. Pour que ce soit respecté, ça prend minimalement les équipements et tout le reste là. Alors, puis c'est pas si évident que ça. Puis on a même Urgence Santé, par exemple, qui a communiqué avec nous là, dès que le tweet est parti de la Chambre de commerce pour nous dire attention. Là, le type d'emploi qu'on a là, des fois, faut transférer une caserne à l'autre ou avec les quarts de travail qu'on a, le covoiturage là, ça.
Monsieur Séguin, pourquoi on a tous l'impression là que vous êtes dernière minute, ou que vous avez pris des décisions puis qu'on le sait pas? C'est-à-dire que j'ai plein d'auditeurs là, qui se disent, c'est bien beau là, l'heure de pointe puis le 9 à 5, mais je travaille dans un hôpital, je commence à 7 heures le matin, je travaille un service essentiel, je finis à 11 heures le soir, il n'y a rien dans ce que vous me proposez là, qui me convient.
Mais en fait, on encourage les gens à essayer les mesures. Le temps de parcours en autobus ou dans les navettes avec les stationnements incitatifs va être très compétitif. Là, et puis une fois rendu à Radisson, ils peuvent se répartir.
Prenons cet exemple-là. Oui. La voie réservée pour les autobus, oui, sur la 20 qui amène, ça arrive jusqu'au tunnel. Mais oui, au tunnel, l'autobus fait quoi?
Et ouais, il est obligé de s'intégrer. Là. Mais toute la, il y a une vingtaine de kilomètres de voies réservées, là. Alors, la voie réservée peut là, facilement dépasser.
Après ça,
trafic.
Il est pris dans le tunnel.
Après ça, il rentre avec les deux autres voies, effectivement, pour entrer. Puis dans le sens de Montréal, même chose, mais on amène l'autobus par voie réservée à 130 mètres du tunnel. Il reste pas grand-chose.
OK, mais si je prends l'autobus pour sortir du tunnel, donc oui. Vers la rive sud, l'heure de pointe d'après-midi.
Oui.
L'autobus va prendre la même voie que les camions et les autos.
Il y a un 130 mètres, effectivement. Il est obligé de s'intégrer dans le trafic. Mais
après ça, il est pris dans le bouchon dans le tunnel.
En fait, non, parce que le tunnel, la voie qui se dirige vers la rive sud, il y a une voie. Puis une fois que la fusion s'est faite entre les deux dernières voies avant de rentrer dans le tunnel, ça va couler là, de l'autre
ça
côté.
Ça va couler.
Ben assurément, là, ça va être une fluidité certaine là, parce qu'il y a plus de trafic. À l'autre bout, là, on a trois voies d'autoroute disponibles pour une voie qui sort du tunnel. Alors c'est clair que le défi va être d'intégrer les deux voies qui restent là, en une seule voie. Et c'est là que l'autobus, lui, il passe tout le bouchon et il arrive à 130 mètres de l'embouchure du tunnel. Il y a un 130 mètres où il est dans le trafic, le reste... Ça va être fluide jusqu'à l'autre bout du tunnel.
Est-ce qu'il y a plus de trains de banlieue qui sont prévus?
On a augmenté la capacité des wagons là, sur la ligne de Saint-Hilaire, par exemple. Donc, il y avait des wagons qui étaient à 4 voitures. Elles sont rendues à 5. Il y en a qui étaient.
Est-ce qu'il y a plus de fréquences? C'est ça ma question.
EXO est en négociation avec le Canadien National pour essayer d'avoir des créneaux horaires.
Fait que lundi, il n'y aura pas plus de fréquences.
Lundi matin, il n'y aura pas plus de fréquence, puis on espère que la négociation entre EXO et le CN va se régler.
Est-ce que les heures du métro changent? Autrement dit, si je veux utiliser le métro parce que je travaille tôt le matin durant la nuit, est-ce que ça change ou pas?
Non, les heures du métro ne sont pas changées. Par contre, sur la ligne jaune, on a ajouté une rame additionnelle, là, ce qui nous donne là, par jour et par direction 50 départs additionnels. Ça, c'est de 5h le matin à 1h du matin. Là. Puis, pendant la nuit, le tunnel est libre. Il n'y a pas d'enjeu de congestion. Là. Mais de 5h du matin à 1h du matin, sur la ligne jaune, on a 50 départs par jour par direction. En pointe seulement, c'est 9 départs par direction. Puis, c'est 1000 passagers par rame de métro. Alors, c'est...
Je donne exemple d'un service de traversier.
Oui.
Saint-Ignace de Loyola, là, oui. Des gens qui prennent la traverse pour aller à Contrecoeur notamment. Donc, et on parle d'attente là, de plusieurs heures.
Oui.
C'est vrai?
Ah, tout à fait. Quand on ferme le tunnel complètement, c'est clair que les gens vont se rabattre sur le traversier. On a déjà augmenté la fréquence des traversiers. Là.
Mais actuellement, ça prend des heures.
Non, mais en fait, quand on ferme complètement le tunnel pour faire des aménagements, c'est vrai qu'il y a une congestion d'un côté ou de l'autre selon le tunnel qu'on ferme. Comme en fin de semaine, je présume qu'il va probablement avoir une congestion. Mais à partir pour les 3 prochaines années, par la suite, il n'y aura pas de ce type d'entravageur-là, sauf quand on va changer de tube dans 18 mois.
Est-ce que c'est vrai que vous avez rencontré les élus du coin au mois de septembre?
Ben oui, des deux côtés de la rive, ouais, effectivement, à Montréal.
Puis qu'ils vous ont fait un paquet de propositions.
Effectivement.
Puis qu'il n'y en a pas une qui a été suivie.
Ben là, je pense que c'est exagéré, là, parce que quand même, on nous a demandé d'augmenter certaines fréquences. Il y a des lignes d'autobus qu'on a bonifiées.
Moi, il y a des gens qui sont à 3 km du quai, là, où se trouve le traversier, puis la file d'attente remonte jusque-là, des fois.
Sorel-Saint-Ignace?
Mm-hmm.
Oui, effectivement, quand les tubes sont fermés, là, c'est clair qu'il y a un impact, mais on ne ferme plus de tubes. En fin de semaine, c'est la dernière grande entrave, et par la suite, le tunnel va être ouvert là, pour les 3 prochaines années, sauf quand dans 18 mois, on va inverser les tubes.
Est-ce que tout ce monde-là se parle? Parce que je vous donne l'exemple, en fin de semaine, là. Fermeture vers la rive sud, on s'entend là-dessus.
Oui.
Après ça, il y a des travaux sur Mercier. À la dernière minute, on apprend qu'il y a une entente avec le CN pour le pont Victoria pour avoir des voies vers la rive sud. L'impression, puis pas juste l'impression, la certitude, là, puis la mairesse de Montréal semble être du même avis, là, c'est qu'il y a plein de gens qui prennent un paquet de décisions, puis que ça se parle pas. L'agence régionale, Mobilité Montréal, que tout ce monde-là existe, mais que ça travaille chacun de leur bord, puis après ça, les chantiers privés, la commission des...
Oui.
Vous parlez-vous?
Assurément. D'ailleurs, je tiens à remercier là, autant la RTM, STM, RTL, l'EXO, qui nous donne un gros coup de pouce au niveau des mesures d'atténuation, le port de Montréal, la ville de Montréal. On a des rencontres techniques là, depuis 2018 là, sur le chantier. Depuis le mois d'août, Là, on était obligé d'annoncer qu'on devait fermer un tube pour faire un tunnel. Il faut bétonner, refaire un tunnel à l'intérieur du tunnel, ce qui nous force à fermer un tube. Mais oui, il y a une concertation. Est-ce qu'il arrive à l'occasion, par exemple, Pont-Mercier, et nos infrastructures veulent pas vieillissent. Il arrive parfois qu'il y a des interventions qu'on va faire en urgence et qu'on ne préférerait pas faire, mais qu'on est obligé de faire.
La semaine prochaine, on ferme un bout de la 132 pour défaire le vieux pont Champlain.
Tout à fait. Mais ça a été synchronisé, là. C'est, on n'a pas fait ça la même fin de semaine qu'on allait fermer le tube direction sud. Alors, c'est oui, il y a cette concertation-là. Est-ce qu'il arrive parfois qu'on est obligé d'aller réparer une dalle comme sur le pont Honoré-Mercier? Oui. Est-ce que ça donne l'impression qu'on n'est pas coordonné? Je suis obligé de reconnaître que ça donne cette impression-là.
Ben, c'est parce que ou vous communiquez mal, là, je veux pas être bête, là, mais c'est qu'on a l'impression, puis pas juste une impression, là, on parle avec les auditeurs automobilisme, mon collègue Marc Brière fait ça en journée longue, puis on se dit, puis comment ça se fait qu'il y a un chantier là, puis comment ça se fait qu'ils ont pas dit ça, puis pourquoi on apprend ça à la dernière minute, puis pourquoi est-ce qu'ils changent d'idée? Avez-vous un problème de com?
Ben, en fait, c'est on n'a pas de problème de communication entre les partenaires.
Entre vous autres, mais avec le bon peuple?
Ben, on peut toujours faire mieux, mais on communique clairement. On a chaque semaine, il y a une diffusion là des entraves qui s'en viennent, des entraves majeures. Malheureusement, il y a des places où il faut intervenir souvent en urgence. Là, il y a rien de dangereux où les structures sont sécuritaires. À partir du moment où elles sont ouvertes, elles sont sécuritaires. Mais parfois, on est obligé de faire des réparations.
Okay. Je vous donne deux ou trois exemples.
Oui.
Dans le tunnel de la Fontaine, il y a des fermetures pour déglacer durant l'hiver.
Oui.
Comment vous allez faire ça cette année?
Ben, on a ces entraves-là. On avait ces entraves-là du côté de la Rive-Sud, Montréal vers la Rive-Sud. Déjà, notre partenaire, là, Renouveau La Fontaine, le consortium qui fait les travaux pour nous, là, ils sont déjà habitués à faire ce type de déglaçage, déneigement-là, dans des corridors encloisonnés. Là. Alors ça, c'est ça va être...
Mais quand il y aura une voie, est-ce que ça va affecter la circulation quand vous allez comme ça déglacer?
Non. C'est présentement, ils sont équipés, ils ont ce qu'il faut pour faire les travaux. Dans le tunnel, on a l'avantage qu'il n'y a pas de neige, là, mais tout ce qui est présentement, il y a de la glace, tout à fait. Le l'épandage va se faire sans souci. Puis présentement, on est déjà dans des corridors avec des glissières de béton de chaque côté. Le déneigement se fait. Là.
Expliquez-moi comment vous allez déneiger des corridors comme ça de béton. La neige va aller où? On la ramasse au fur et à mesure?
Ben, écoutez, je vous avoue que sur le plan technique, là, je suis peut-être moins équipé, là, mais ça fait quand même au-delà d'un an là, qu'on fait ce déneigement-là du côté des dalles de Montréal, là, du côté de des travaux qui sont du côté de Montréal avant le tube. On est encloisonné. Le déneigement, déglaçage se fait tout de même. Là. C'est clair que tant qu'on est capable de tasser la neige, pas de problème, mais à un moment il faut l'enlever, puis on profite là, des périodes moins achalandées comme la nuit.
Puis quand vous tassez la neige, ça va être encore assez large pour qu'on passe.
Oui.
Vous êtes sûr de ça?
Bien, en fait, mais c'est déjà le cas. On a déjà fait du déneigement dans des corridors.
Il ne faut pas que ça soit une trop grosse quantité de neige, on s'entend.
Mais clairement, est-ce qu'il est possible qu'on soit obligé de fermer ou faire l'entretien? Là, c'est possible, ça ne s'est pas vu dans les dernières années, là, mais s'il y a une tempête majeure, s'il y a une tempête majeure, règle générale, on encourage les gens à demeurer chez eux.
S'il y a un accident dans le tunnel.
Oui.
Puis là, je pense, l'hypothèse où il y a seulement un corridor, là, qui est l'hypothèse vers la rive sud, là.
Oui.
Comment vous allez faire? Je parle pas de vous rendre là avec les équipes d'urgence, mais par exemple pour sortir des véhicules alors que il va y avoir des véhicules en avant puis mettons en arrière de l'accident.
Oui, mais il y a tout est planifié, tout est prévu. Il y a des corridors de sécurité qui sont prévus pour faire passer les équipes d'urgence. D'abord, s'il y a des blessés, c'est de s'occuper des blessés. Bon. Après ça, on a des dépanneuses lourdes là, pour les camions.
Comment elle va se rendre là?
Ah, ben, ils vont, notamment, là, selon le côté où ils vont se retrouver, mais ils vont aller en avant. On fait évacuer le trafic ou en avant de ce qui est de l'accident. Puis après ça, ils vont reculer carrément. Il y a des corridors de sécurité qui sont prévus, là. Puis il y a des corridors protégés du côté de la rive sud, par exemple. De l'île Charon, vont être en mesure de reculer avec les dépanneuses, aller accrocher les véhicules puis les sortir. Fait que ça, c'est planifié, c'est conçu, pratiqué, là.
Êtes-vous en train de me dire que tous vos fils sont attachés puis qu'on s'énerve pour rien puis que ça sera walk in the park lundi?
Ben, on dit pas que ça va être a walk in the park, mais par contre, il y a un niveau d'anxiété présentement qu'on pense que c'est exagéré. Nous, on est confiants. Là, les calculs ont été faits. Les ingénieurs qui ont travaillé là-dessus sont excellents. On est confiants que ça va être plus lourd, ça va être difficile. Les premières journées, les deux premières semaines, certains, là, que ça va être difficile. Il y a une adaptation pour les automobilistes, là. Les corridors vont changer. Mais les premiers jours vont être difficiles, mais on est convaincu que ce ne sera pas la catastrophe appréhendée.
Mais ça dépend de la notion qu'on a. Parce que vous me dites déjà que le temps a doublé, puis qu'on va redoubler à partir de lundi. Ben, vous me dites x2, puis lundi, ça va être x4.
Effectivement, par rapport aux travaux, par rapport à le temps qu'il y avait des travaux. Oui. Puis c'est là aussi où la différence est notable. La différence entre le lundi-vendredi et le reste de la semaine. La différence est notable. Si les entreprises, le gouvernement, si on donne l'exemple puis que le télétravail est encouragé pour la clientèle qui utilise le tunnel, là, ben c'est clair que ça fait déjà là une grande différence. Et en plus, on a quand même mis une glissière, par exemple, là, pour bloquer l'accès à la sortie numéro 6, Beaubien, là. Quand les gens viennent de Repentigny puis prennent la 25 Sud, on a mis une glissière pour bloquer la sortie numéro 6. Ça peut être un peu frustrant, mais ça a drôlement aidé la circulation. C'est par ces petites mesures-là qu'on est capable d'améliorer la fluidité. Là. Fait qu'on est confiant que, oui, il va avoir un impact.
Est-ce qu'on va travailler dans chaque tube, là, pour une période de 18 mois, là, 24 heures par jour, 7 jours par semaine?
Ça, c'est un détail que je vous avoue que je n'ai pas, mais c'est clair qu'à partir du moment où les tubes sont fermés, c'est tout à fait, là, moi, ma compréhension, c'est que ça va être à temps plein, là, autant que possible.
Ça joue par semaine.
Est disponible. Je n'ai pas ce détail-là, je vous avoue. C'est ma compréhension, mais j'ai pas ce détail.
C'est vous qui faites la coordination, puis vous savez
pas. Les travaux, monsieur.
Non, je comprends, vous faites pas les travaux, mais que la personne qui fait la coordination, c'est pas si les travaux sont 7 jours puis 24 heures, c'est...
Ben, en fait,
vous n'avez pas posé la question?
Moi, je sais qu'on a une voie direction sud, deux voies direction nord, puis comment on est capable de compenser avec des mesures de transport collectif, télétravail ou autre, là, pour s'assurer que dans ces trois voies-là, on puisse passer le maximum de véhicules, puis qu'il y ait le moins de bouchons et d'achalandage.
Okay. Donc, vous êtes optimiste pour lundi?
Je vous dirais que ça va être difficile. Il y a une adaptation tout le temps. Mais par rapport au niveau d'inquiétude, oui, on est aime ça. Oui, on est optimiste.
Fait que si on pense que vous êtes pas prêt, que vous êtes mêlé, que vous ne vous parlez pas, on se trompe.
Ben, on se parle, on est prêt, puis on n'est pas en attente. Les gens travaillent 24-7 de ce temps-là là, pour justement se préparer pour ce qui s'en vient. Là. On n'est pas en attente, on travaille. On est confiant que ça va aller mieux que ce qui est anticipé présentement, puis ce qui circule notamment dans les médias. On est confiant que les temps de parcours vont être affectés, mais pas au point où les gens devraient avoir une inquiétude certaine. Mais c'est, encore une fois, télétravail, s'il vous plaît, covoiturage, c'est important quand même. Tout ce que les gens peuvent faire pour éviter de rentrer dans le tunnel, on les encourage à le faire.
J'ai une question que beaucoup de parents m'ont envoyée pour vous.
Oui.
C'était-tu une bonne idée de commencer ça le 31 octobre, le jour de l'Halloween, alors qu'il y a un flot de parents qui tentent de gagner la maison, qui partent de Montréal vers la Rive-Sud, entre autres? Là.
Oui, on est conscient de ça. Par contre, la température joue contre nous. Il y a des travaux imposants. On a des kilomètres de glissières à installer. Là, et il y a tout le marquage à refaire. Parce que du côté de la Rive-Sud, notamment, là, toute la configuration va être changée pour envoyer, même du côté nord, là, des deux côtés. Beaucoup de marquage, beaucoup de pavage, ainsi de suite. Et ça, c'est la température qui joue contre nous. Avoir repoussé ça d'une semaine...
Non, mais au mardi, au lieu du lundi.
Non, c'est impossible. La fermeture, justement, là. La fermeture, c'est 60 heures de travaux consécutifs dont on a besoin, là. Alors, on peut pas repousser un jour de semaine.
Vous habitez la Rive-Sud, Montréal, Rive-Sud. Laval, Rive-Sud?
Oui.
Puis votre bureau est à Montréal?
Mon bureau est à Montréal.
Comment vous allez voyager?
Je vais prendre le transport en commun.
Puis ça se fait bien, vous l'avez testé?
Ben oui, j'ai la chance de vivre justement dans l'agglomération de Longueuil. Là, puis le service de transport collectif de la RTL est excellent. Puis la ligne jaune, là en plus, à partir du 31 octobre, les départs vont être plus fréquents. Ça va bien se faire, effectivement.
OK. Parce que vous savez que l'enjeu, puis je vous le dis, là, c'est pour beaucoup de travailleurs qui n'ont pas des horaires là, de 9 à 5 ou de 8 à 4. Là, eux autres, là, ils s'arrachent les cheveux de la tête. Dernier volet, les camionneurs.
Oui.
Là, il y a un enjeu, là, parce que le camion, il peut pas prendre le transport collectif. Là, le camion, il faut qu'il fasse... Donc, il y a des impacts sur la livraison, l'approvisionnement. Il y a des impacts pour les camions d'ordures, la collecte des déchets. C'est quoi l'impact que vous anticipez pour des camionneurs qui vous écoutent ce matin?
Ben, en fait, c'est le bout-là. La raison pour laquelle on encourage le télétravail, covoiturage et tout le reste, là, puis le transfert modal, surtout d'aller profiter des mesures d'atténuation, les autobus, ainsi de suite, c'est pour essayer de dégager le plus possible l'axe de la 25 ou l'axe du tunnel, parce qu'il y en a, comme les camionneurs et comme les employés qui n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture, là, il y en a. leur permettre justement eux d'avoir un accès qui soit relativement fluide. Oui, il va avoir un impact au niveau du camionnage. La ministre a bel et bien dit, s'il vous plaît, là, entre entreprises, essayez de vous entendre. Déjà, c'est commencé. Là, on a des témoignages d'entreprises qui ont pris des moyens de part et d'autre des dérives, mais aussi des ententes avec le client qui va accueillir. Est-ce qu'ils sont capables d'étirer les heures de réception?
Me parlez-vous de plusieurs ententes ou d'anecdotes là, d'ententes entre des entreprises?
Ben écoutez, là, ce que je lis dans les journaux, les entreprises qui ont commencé effectivement à s'adapter, ça fait quand même 4 ans là qu'on parle significativement des travaux dans le tunnel Louis H. Lafontaine. Là, la décision qui a été prise au mois d'août, on est obligé de la prendre parce qu'il faut fermer un tube. C'est clair que ça, à ce niveau-là, il y a une inquiétude, mais je le répète, là, télétravail, la différence entre le lundi, si on a des lundis et des vendredis tout le temps, là, ça sera pas un enjeu majeur.
OK. M. Séguin, merci d'être venu ce matin.
Ça fait plaisir. Merci, M. Arquin.
Jean Séguin, sous-ministre adjoint à la Sécurité civile, qui coordonne donc ces mesures pour le chantier du tunnel La Fontaine.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Crise, c'est le moins qu'on peut dire, au Parti libéral. La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a été expulsée du caucus du parti. Bon, la chef Dominique Anglade a formé son cabinet fantôme. Paraît-il que Mme Nichols voulait un poste de vice-présidente à l'Assemblée nationale. On lui a préféré un autre député. Ils se sont pas entendus sur les dossiers. Puis elle a dit, bon, ben d'abord, j'en prendrai pas. Et c'est là qu'on a décidé de l'expulser. C'est un parti qui a eu la pire performance de son histoire aux dernières élections, qui a une vingtaine de députés. Mettons que tu n'as pas le luxe d'en perdre. J'en parle avec Lise Thériault, qui a siégé 20 ans à l'Assemblée nationale comme députée et comme ministre avec le Parti libéral. Madame Thériault, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Qu'est-ce qui se passe au Parti libéral? Qu'est-ce que vous savez sur ce départ forcé de Marie-Claude Nichols du caucus?
Ben, j'en sais ce que j'ai entendu, puis ce qu'Enrico Ciccone a dit sur la place publique. Honnêtement, j'ai jamais entendu, moi, que des officiers parlementaires prenaient une décision de mettre une députée à la porte d'un caucus, pour commencer. C'est une décision qui regarde la chef ou toutes les députées, mais pas en deux, là. C'est pas vrai. Puis honnêtement, là, Marie-Claude Nichols, c'est une députée qui est loyale, qui s'est battue, qui a gagné son comté de peine et de misère. Il y avait tellement de ressources de la CAQ dans ce comté-là. C'est la seule députée du 450 qui a passé par-dessus la CAQ et qui a été élue. Puis on dit, ben salut. Non, toi, tu t'en vas parce que tu veux pas jouer en équipe. Je m'excuse, là. Mais moi, des formations de cabinet fantôme, j'en ai vu plus qu'un, M. Arcan. Puis, je sais que vous voulez pas parler de votre frère, là, mais lui, il en a fait un cabinet fantôme au lendemain de la dernière campagne, l'avant-dernière campagne électorale. Puis, la première des choses que tu fais quand t'es un chef puis t'es un leader, tu parles à tes vieux députés, tu commences par monter ton cabinet, t'essaies de t'assurer que tes gens soient heureux, t'essaies de faire des compromis dans les dossiers. C'est au chef de faire ça. Tu prends tes décisions en fonction de ta parité homme-femme, puis en fonction de l'ancienneté des députés. Tu peux pas te donner aux nouveaux députés qui arrivent, puis que les bons députés, tu vas dire, ben toi, tu vas prendre ton quatrième choix. Marie-Claude, elle avait toutes les compétences pour être vice-présidente de l'Assemblée nationale.
OK, mais Mme Thériault, là, vous connaissez ça encore mieux que moi. Là, ça fait 20 ans que vous êtes dans ce parti-là. Vous me faites le portrait de quelqu'un de valeur, de quelqu'un d'expérience. Oui. Pourquoi Dominique Anglade l'a foutu à la porte?
C'est à Dominique Anglade qu'il faut poser la question.
Ouais, ouais, mais là, vous avez une petite idée, j'en suis certain, là.
Ben, moi, je peux juste vous dire que c'est sûr que j'ai lu l'article de Tommy Chouinard où on essaie de faire toutes sortes de liens dans la presse. Dominique, tu sais, c'est la chef. Oui, elle a le loisir de décider, mais honnêtement, quand tu fais preuve de leadership, tu t'assures de rassurer tes troupes alentour de toi puis de les ramener sous ton leadership. On a tous eu, à un certain moment donné, dans notre carrière politique, des différends avec nos chefs. Moi, la première. Mon rôle premier comme député, c'est de dire la vérité à mon chef ou à ma chef. Puis après ça, d'essayer de trouver une zone de confort pour tout le monde. Fait que si on a encore des vieilles histoires qui traînent, ben c'est la chef puis son entourage, là. Parce qu'honnêtement, moi,
OK, les vieilles histoires, c'est le fait que vous l'avez pas appuyé au leadership, que Mme Nichols l'a pas appuyé au... C'est ça, les vieilles histoires, là.
Oui, c'est ça, les vieilles histoires. Puis honnêtement, tu sais, moi, là, j'ai pas appuyé Philippe Couillard. J'ai appuyé Raymond Bachand. Je me suis ramassée vice-première ministre du Québec sous Philippe Couillard. Ça, c'était faire preuve de leadership pour ramener toutes tes troupes, pour fédérer ton monde. C'est pas ça qu'a fait Dominique. C'est la seule députée du 450 qui restait au Parti libéral. La seule. D'expérience. Elle a gagné son comté.
Bon, vous connaissez le Parti libéral très bien, là. Un chef qui perd, c'est jamais bon. Un chef qui perd avec le pire score de l'histoire, c'est encore pire. Vous avez parlé à combien de vos collègues, anciens collègues, depuis hier? Ça a dû sonner sans arrêt.
Plusieurs messages. Okay. Plusieurs téléphones.
C'est quoi la température de l'eau?
Ouh, les gens sont pas très contents.
Mais encore?
Et on est tous des militants du Parti libéral. Ben, ils sont pas contents. Honnêtement, personne ne comprend ce qui est arrivé. Tout le monde est à la même place que moi au niveau du leadership. Ben, voyons donc, ça se fait pas. Tous les anciens députés, on sait tous que c'est l'ancienneté d'abord qui va primer. Puis tu vas commencer par tes députés que tu sais que ça risque de brasser. On a le droit de dire non quand on n'est pas à l'aise dans un dossier. On est dans l'opposition. Opposition! C'est pas un conseil des ministres, là. Franchement. On met une députée à la porte sans raison. Ben là, s'il y a d'autres raisons, qu'ils le disent donc plutôt que d'essayer de saler des réputations, puis on va rectifier des faits.
Pour reprendre l'expression de mon ami Claude Poirier, est-ce que Mme Anglade vit sur du temps emprunté?
Ben, elle vivait déjà sur du temps emprunté parce que c'est la pire défaite de l'histoire du Parti libéral du Québec. Je pense qu'elle a engendré elle-même le début de la fin avec le geste qu'elle a posé envers Marie-Claude Nicole.
OK, la course au leadership est commencée, là.
Ben, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis pas intéressée. Moi, je suis posée d'être à la retraite, M. Arcand. Puis, savez-vous pourquoi j'ai fait une sortie? Parce que c'est injuste. J'ai toujours dit le fond de ma pensée. C'est pas parce que je fais plus de politique que je vais me garder une petite gêne. Au contraire. Je suis pas là pour dévoiler des secrets. Je suis pas là pour piquer de la boue non plus. Mais honnêtement, là, j'aime pas la petite gêne que j'ai vue. J'aime pas les petites questions que l'entourage du chef ont laissé transposer hier pour essayer de faire à croire n'importe quoi. La chef a fait une erreur magistrale en ne considérant pas le fait que Marie-Claude, elle avait de l'ancienneté. Elle aurait pu attendre. On n'avait pas d'affaire à la mettre dehors pour une question comme ça. Quand on met un député d'un caucus, c'est parce qu'il y a une faute grave. Marie-Claude, elle parle pas aux médias. OK? C'est pas elle qui est à l'origine des fuites. Fait que là, si on essaie de faire un exemple avec elle, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de dire aux nouveaux députés, c'est là, tu dis comme moi, puis tu fais comme moi, puis ton opinion, c'est pas important, je veux pas l'avoir. Moi, j'ai fait une table ronde hier à l'Assemblée nationale avec tous les nouveaux députés, puis je leur ai dit, quand tu te couches le soir, là, regarde-toi dans le miroir, puis demande-toi donc si tu as tout fait, puis tu as tout dit ce qu'il fallait que tu fasses, puis que tu dises. On vient en politique pour changer les choses, pas pour dire oui comme nos chefs veulent toujours. On est là pour dire, hey, ça, ça n'a pas d'allure, ça, c'est pas correct, ça, je suis pas d'accord. Puis après, là, tu discutes, puis après ça, tu vas te ranger en équipe. C'est comme ça qu'on fait de la politique, pas en excluant les gens.
Madame Thériault.
C'est très mal parti, en tout cas.
Ça, c'est clair. Je pense que le message est assez précis. Merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Merci. Bonne journée. Lise Thériault, siégée 20 ans à l'Assemblée nationale comme députée et ministre dans un gouvernement libéral. Je pense que... Hein? On pense à la même chose.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Crise, c'est le moins qu'on peut dire, au Parti libéral. La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a été expulsée du caucus du parti. Bon, la chef Dominique Anglade a formé son cabinet fantôme. Paraît-il que Mme Nichols voulait un poste de vice-présidente à l'Assemblée nationale. On lui a préféré un autre député. Ils se sont pas entendus sur les dossiers. Puis elle a dit, ben d'abord, j'en prendrai pas. Et c'est là qu'on a décidé de l'expulser. C'est un parti qui a eu la pire performance de son histoire aux dernières élections, qui a une vingtaine de députés. Mettons que t'as pas le luxe d'en perdre. J'en parle avec Lise Thériault, qui a siégé 20 ans à l'Assemblée nationale comme députée et comme ministre avec le Parti libéral. Madame Thériault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Qu'est-ce qui se passe au Parti libéral? Qu'est-ce que vous savez sur ce départ forcé de Marie-Claude Nichols du caucus?
Ben, j'en sais ce que j'ai entendu, puis ce qu'Enrico Ciccone a dit sur la place publique. Honnêtement, j'ai jamais entendu, moi, que des officiers parlementaires prenaient une décision de mettre une députée à la porte d'un caucus, pour commencer. C'est une décision qui regarde la chef ou toutes les députées, mais pas en deux, là. c'est pas vrai. Puis honnêtement, là, Marie-Claude Nicole, c'est une députée qui est loyale, qui s'est battue, qui a gagné son comté de peine et de misère. Il y avait tellement de ressources de la CAQ dans ce comté-là. C'est la seule députée du 450 qui a passé par-dessus la CAQ et qui a été élue. Puis on dit, ben salut. Non, toi, tu t'en vas parce que tu veux pas jouer en équipe. Ben, je m'excuse, là. Mais moi, des formations de cabinet fantôme, j'en ai vu plus qu'un, M. Arcan. Puis je sais que vous voulez pas parler de votre frère, là, mais lui, il en a fait un cabinet fantôme au lendemain de la dernière campagne, de l'avant-dernière campagne électorale. Puis la première des choses que tu fais quand tu es un chef puis tu es un leader, tu parles à tes vieux députés, tu commences par monter ton cabinet, tu essaies de t'assurer que tes gens soient heureux, tu essaies de faire des compromis dans les dossiers. C'est au chef de faire ça. Tu prends tes décisions en fonction de ta parité homme-femme, puis en fonction de l'ancienneté des députés. Tu peux pas te donner aux nouveaux députés qui arrivent, puis que les bons députés, tu vas dire, ben toi, tu vas prendre ton quatrième choix. Marie-Claude, elle avait toutes les compétences pour être vice-présidente de l'Assemblée
okay,
nationale.
OK, mais Mme Thériault, là, vous connaissez ça encore mieux que moi. Là, ça fait 20 ans que vous êtes dans ce parti-là. Vous me faites le portrait oui. de quelqu'un de valeur, de quelqu'un d'expérience. Oui. Pourquoi Dominique Anglade l'a foutu à la porte?
C'est à Dominique Anglade qu'il faut poser la question.
Ouais, ouais, mais là, vous avez une petite idée, j'en suis certain, là.
Ben, moi, je peux juste vous dire que c'est sûr que j'ai lu l'article de Tommy Chouinard où on essaie de faire toutes sortes de liens dans la presse. Dominique, tu sais, c'est oui, c'est la chef. Oui, elle a le loisir de décider, mais honnêtement, quand tu fais preuve de leadership, tu t'assures de rassurer tes troupes alentour de toi puis de les ramener sous ton leadership. On a tous eu, à un certain moment donné, dans notre carrière politique, des différends avec nos chefs. Moi, la première. Mon rôle premier comme député, c'est de dire la vérité à mon chef ou à ma chef. Puis après ça, d'essayer de trouver une zone de confort pour tout le monde. Fait que si on a encore des vieilles histoires qui traînent, ben c'est la chef puis son entourage là, parce qu'honnêtement moi
okay, les vieilles histoires c'est le fait que vous l'avez pas appuyé au leadership, que Mme Nichols l'a pas appuyé au c'est ça les vieilles histoires là.
Oui, c'est ça les vieilles histoires, puis honnêtement, tu sais, moi là, j'ai pas appuyé Philippe Couillard, j'ai appuyé Raymond Bachand, je me suis ramassé vice-première ministre du Québec sous Philippe Couillard. Ça, c'était faire preuve de leadership pour ramener toutes tes troupes, pour fédérer ton monde. C'est pas ça qu'a fait Dominique. C'est la seule députée du 450 qui restait au Parti libéral. La seule. D'expérience. Elle a gagné son comté.
Bon, vous connaissez le Parti libéral très bien, là. Un chef qui perd, c'est jamais bon. Un chef qui perd avec le pire score de l'histoire, c'est encore pire. Vous avez parlé à combien de vos collègues, anciens collègues, depuis hier? Ça a dû sonner sans arrêt.
Plusieurs messages, okay. Plusieurs téléphones.
C'est quoi la température de l'eau?
Ouh, les gens sont pas très contents.
Mais encore?
Et on est tous des militants du Parti libéral, mais ils sont pas contents. Honnêtement, personne comprend ce qui est arrivé. Tout le monde est à la même place que moi au niveau du leadership. Mais voyons donc, ça se fait pas. Tous les anciens députés, on sait tous que c'est l'ancienneté d'abord qui va primer. Puis tu vas commencer par tes députés que tu sais que ça risque de brasser. On a le droit de dire non quand on n'est pas à l'aise dans un dossier. On est dans l'opposition. Opposition! C'est pas un conseil des ministres, là. Franchement. On met une députée à la porte sans raison. Ben là, s'il y a d'autres raisons, qu'ils le disent donc plutôt que d'essayer de saler des réputations, puis on va rectifier des faits.
Pour reprendre l'expression de mon ami Claude Poirier, est-ce que Mme Anglade vit sur du temps emprunté?
Ben, elle vivait déjà sur du temps emprunté parce que c'est la pire défaite de l'histoire du Parti libéral du Québec. Je pense qu'elle a engendré elle-même le début de la fin avec le geste qu'elle a posé envers Marie-Claude Nicole.
OK, la course au leadership est commencée, là.
Ben, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis pas intéressée. Moi, je posais d'être à la retraite, M. Arcan. Savez-vous pourquoi j'ai fait une sortie? Parce que c'est injuste. J'ai toujours dit le fond de ma pensée. C'est pas parce que je fais plus de politique que je vais me garder une petite gêne. Au contraire, je suis pas là pour dévoiler des secrets. Je suis pas là pour pitcher de la boue non plus. Mais honnêtement, là, j'aime pas la petite gêne que j'ai vue. J'aime pas les petites questions que l'entourage du chef ont laissé transposer hier pour essayer de faire à croire n'importe quoi. La chef a fait une erreur magistrale en ne considérant pas le fait que Marie-Claude, elle avait de l'ancienneté, elle aurait pu attendre. On n'avait pas d'affaire à la mettre dehors pour une question comme ça. Quand on met un député d'un caucus, c'est parce qu'il y a une faute grave. Marie-Claude, elle parle pas aux médias. OK? C'est pas elle qui est à l'origine des fuites. Fait que là, si on essaie de faire un exemple avec elle, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de dire aux nouveaux députés, c'est là, tu dis comme moi, puis tu fais comme moi, puis ton opinion, c'est pas important, je veux pas l'avoir. Moi, j'ai fait une table ronde hier à l'Assemblée nationale avec tous les nouveaux députés, puis je leur ai dit, quand tu te couches le soir, là, regarde-toi dans le miroir, puis demande-toi donc si tu as tout fait, puis tu as tout dit ce qu'il fallait que tu fasses, puis que tu dises. On vient en politique pour changer les choses, pas pour dire oui comme nos chefs veulent toujours. On est là pour dire, hey, ça, ça n'a pas d'allure, ça, c'est pas correct, ça, je suis pas d'accord. Puis après, là, tu discutes, puis après ça, tu vas te ranger en équipe. C'est comme ça qu'on fait de la politique, pas en excluant les gens.
Madame Thériault.
C'est très mal parti, en tout cas.
Ça, c'est clair. Je pense que le message est assez précis. Merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Merci. Bonne journée. Lise Thériault, siégée 20 ans à l'Assemblée nationale comme députée et ministre dans un gouvernement libéral.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Hey, on va parler de la victoire du Canadien dans deux instants, mais commençons par le baseball, les séries mondiales.
Oui, la série mondiale débute ce soir entre les Phillies de Philadelphie et les Astros de Houston. Et pour en parler, on a avec nous Alex Agostino, il est superviseur des dépisteurs pour les Phillies de Philadelphie. Alex, bonjour.
Bon matin, messieurs.
Alex, c'est un peu une surprise de voir les Phillies à la Série mondiale cette année. Oui. Et un des grands responsables, c'est l'entraîneur de l'équipe qui est Canadien par surcroît.
100% d'accord. Lorsque Rob Thompson a pris les rênes de l'équipe, on avait une fiche de 22 victoires et 29 défaites. Alors, lui, il a amené une nouvelle culture dans la chambre. Pas parce que Joe Girardi, l'ancien gérant, n'était pas un bon gérant, mais ça marchait pas. Il y avait l'intensité. On avait assez d'intensité avec des Bryce Harper, des Aaron Nola, les joueurs. Les jeunes n'avaient pas la chance de vraiment s'éclairer. Mais l'arrivée de Thompson, qui est un communicateur hors pair, quelqu'un qui a été dans le baseball professionnel et majeur depuis plus de 30 ans, lui a pris son rôle comme, bon, moi, mon rôle, c'est de vous mettre en position de réussite. Et il a bien réussi à amener l'équipe en série. Et depuis le début des séries, c'est toute une équipe, tout le monde. On a une équipe de vétérans, on a du talent à revendre. Et là, les gars, finalement, croient en eux. On arrive contre une équipe, une grande équipe, les Astros de Houston, mais ça va être une belle série mondiale. Et très content pour Rob Thompson, que j'ai eu la chance de rencontrer cette année dans des rencontres de dépisteurs qui est venu nous jaser. Un gars vraiment humble, un gars qui comprend son rôle, puis de le voir après plusieurs années de jouer dans les ligues mineures, entraîner dans les ligues mineures, être dans les majeures avec les Yankees longtemps, avec Joe Girardi, venir avec les Phillies, là, 4-5 ans, puis à sa première saison, même pas une saison complète, être en Série mondiale, c'est une très belle histoire.
Oui, d'ailleurs, il a déjà, lui, plusieurs bagues de Série mondiale remportées avec les Yankees de New York. Mais là, Alex, on va se dire les choses, vous n'êtes pas favori pour gagner cette série-là, même si vous avez eu un parcours, vous avez battu les Braves qui avaient fini loin devant vous au classement. Mm-hmm. Les Padres avaient une saison OK, mais ils avaient éliminé les Dodgers qui avaient eu une saison extraordinaire. Et là, les Astros n'ont pas encore subi la défaite en éliminatoire, là.
Non, en écoutant tout ça, on n'a aucune chance de gagner. mais la beauté, c'est que ça va jouer sur le terrain.
Non, mais en même temps, il y a une espèce de karma autour de l'équipe des Phillies actuellement, là.
Très, très bien dit, Alain, c'est que les Astros ont gagné 106 parties. Tu gagnes pas 106 parties, tu vas pas 6 années de suite dans les séries, puis c'est leur quatrième incident en série mondiale, si t'as pas une équipe de talent. De notre côté, il y a eu des hauts et bas les dernières années. L'arrivée de David Dombrowski a changé un peu la culture. On s'attendait à être dans les séries cette année. Blessure à Harper en début de saison. Mauvais début de saison. On en gagne 87. Mais les deux nouveaux règlements de la Ligue nationale cette année nous ont permis d'être là. Un, s'il n'y a pas de frappeur désigné cette année, on n'est pas là parce que Bryce Harper en début de saison se blesse au bras et ne peut plus jouer dans le champ. On peut pas avoir, il n'aurait pas pu jouer parce que s'il n'y avait pas de frappeur désigné, il n'y avait pas de place pour lui. Il a été capable de jouer, il s'est blessé au pouce, il est revenu, puis dans les séries, il mène l'équipe, il l'amène sur son dos, puis let's go. Puis la deuxième, c'est qu'on a passé de 10 à 12 équipes dans les séries, on a été dans la nationale, la sixième et dernière équipe à se rendre. Mais tu regardes notre alignement, Harper, Schwarber, Castellanos, Real Muto, c'est une équipe de joueurs étoiles aussi, puis nos partants arrivent vraiment comme Nola, Wheeler, Rangers, Suarez, on peut lancer contre n'importe qui. Nos releveurs qui n'étaient pas là en début de saison ou qui étaient au niveau des mineurs comme Alvarado, Dominguez qui revient d'une blessure, eux présentement, ces deux-là sont très dominants. Ce que les Astros ont de plus, ils ont plus d'expérience dans les séries, ils ont un peu plus de profondeur en relève, mais le karma où on est arrivé présentement, on est une équipe que, en écoutant à l'entour, les gens veulent que les Phillies gagnent. C'est rare. Parce que les Astros ont encore cette histoire de tricherie, même si ce n'est plus l'équipe. Avant, c'est géré par un gérant que tout le monde adore en Dusty Baker. Mais là, c'est un 4-7. C'est 4 parties qui vont être à Houston, 3 à Philadelphie, dépendamment si on sera là. Mais j'ai dit à tout le monde depuis une semaine, nous sommes aujourd'hui la meilleure équipe de la Ligue nationale pour affronter les Astros. Et ça, j'y crois fermement. Pourquoi? Parce qu'on a battu les Cards, qui est une machine, en deux. Les Braves d'Atlanta, là, ont gagné la Série mondiale l'année passée. Ont dominé cette année. Et on les a battus en 4-3-1. Puis pas par la chance, parce qu'on les a dominés. Les Padres, qui ont une saison à dents, c'est une équipe qui avait Soto, Machado, Darvish, Blake Snell. C'est une équipe d'étoiles aussi, et on les a battus en 5. Alors, on mérite d'être là. Les règles sont faites. Tu sais, t'en gagnes 100, puis tu perds comme les Dodgers, les Mets, les Braves. C'est de valeur. Mais là, moi, je pense qu'on va donner une grande, grande bataille à Houston, puis que la meilleure équipe gagne. Moi, j'ai juste hâte d'être présent. Dimanche soir, on a un gros party à Philadelphie avec le propriétaire. Puis ensuite, on est sur place pour voir les parties. Et écoute, ça l'a amené une fébrilité incroyable à Philadelphie. Mais même au Québec, le monde en parle à tonnes, évidemment, parce que je vis ici, puis je suis dans le monde du baseball. J'ai des camps l'hiver. Les gens se promènent, puis « Hey Alex, on prend pour les Phillies cette année. Hey, mes amis, on est tous pour les Phillies cette année. » Puis c'est le fun d'avoir un mini-impact de cette façon-là, qu'on continue à en parler. Les Canadiens ont gagné hier, qu'est-ce qu'on veut plus?
Écoute, Alex, on te souhaite une victoire, puis on te souhaite une bague de la Série mondiale.
Parfait. Ah, ça serait le fun, j'en ai déjà une avec les Marlins, une autre avec les Phillies, une troisième pour quelqu'un qui travaille vraiment dans l'ombre, puis qui ne joue pas. Puis on n'a pas, une fois que les parties sont commencées, on a zéro contrôle. Je remercie beaucoup tout le monde qui m'a souhaité ça, puis on espère que des gars comme Harper, Nola, Wheeler, Real Muto vont continuer à faire le travail qu'ils ont fait là. En tout cas, le stade va vibrer à Houston, évidemment, ce soir, mais à Philadelphie encore plus.
Parfait. Merci, Alex.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, messieurs.
Merci. Bye. Pour ce qui est du Canadien, j'ai demandé à Ron de résumer le match.
Oui, alors pas de plus grand match. Pas de plus grand match, mais vous savez, un moment donné, pas de plus grand match, mais un moment donné, tu gagnes. C'est un peu ça, hein? Dans la vie, c'est un peu ça. C'est pas comment, c'est combien.
Exactement. Voilà.
Alors, c'est combien?
3-2.
OK.
But de Josh Anderson, mais le grand héros de la soirée, c'est Samuel Montembeau. 43 arrêts, n'eût été de sa performance. Pas certain que le Canadien aurait gagné. Gallagher et Goulet, avec son premier dans la Ligue nationale, ont marqué. David Savard, 2 passes. Le Canadien qui joue à Saint-Louis demain. Sinon, tennis, Félix Auger-Aliassime qui a remporté son match hier au tournoi de Bâle. 51 minutes pour gagner 6-1 et 6-0. Prochain tour, en quart de finale, va affronter le Kazakh Alexander Bublik. Les deux joueurs se sont rencontrés 2 fois et chacun a remporté une victoire. Chez les dames, Leila Fernandez a été éliminée au tournoi de Tampico par une autre Canadienne, Rebecca Marino, 6-3 et 6-3. C'est le grand soir pour les Coyotes de l'Arizona qui vont jouer leur premier match à domicile. Pour rappeler qu'ils vont évoluer dans le stade de l'équipe universitaire dans des conditions, comme disait M.C. Gilles, le vestiaire du club visiteur ressemble à un centre de vaccination en période de COVID.
Est très bonne parce que c'est vrai.
C'est vrai, tu sais, avec des rideaux, là, c'est des sections. Puis, je te dirais que le vestiaire des Coyotes n'est pas de Guillaume Nieu, là, mais non, c'est un peu bric-à-brac.
Bon.
Mais là, les installations sont c'est pas complété encore. On est à construire une annexe où les Coyotes vont pouvoir s'installer pour les 3 prochaines années, c'est ce qu'on dit.
Si vous me permettez, pour conclure, il faut que je fasse plaisir à l'équipe, Mme Morin, entre autres. Il y a également Catherine Bénédicte. Je sais que j'avais anticipé un but de Cole Caulfield. Malheureusement, il n'a peut-être pas été à la hauteur tout à fait hier, mais...
Ben écoute, tu ne peux pas marquer à tous les soirs.
Quelques
hein?
bons lancers.
Oui, 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 il y a eu des opportunités.
Bon, quelques bons lancers.
Récupération maintenant, voilà Suzuki, voilà 2 contre 1.
Peut-être le prochain match.
Avec Caulfield.
Demain à Saint-Louis.
Demain à Saint-Louis.
Ça va, c'est goal!
Par le fantôme du grand Maurice Richard.
Amuse-toi.
Go, Habs, go, come on.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.